C'est avec l'abbé Raphaël Courneau que nous sommes en ligne aujourd'hui. Bonjour Père.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes prêtre à Paris, responsable de la pastorale des jeunes adultes. Vous avez publié cet été un petit ouvrage, Happy Hours P pour Papa Pressé, aux éditions MAM. Et si nous vous contactons aujourd'hui, c'est parce que vous avez donné, il y a quelques jours, une conférence à Toulouse intitulée « N'ayez pas peur d'être des pères ». Décrivez-nous, Père Raphaël Courneau, les papas que vous rencontrez dans votre ministère. Est-ce qu'ils sont plutôt papa poule ou super-héros? Est-ce qu'ils sont débordés ou déprimés?
Moi, je vois beaucoup de pères de famille qui sont un peu fatigués. Alors, pas simplement fatigués par l'ambiance, le Covid et les événements extérieurs, mais fatigués aussi un peu de la pression qu'on peut leur mettre. La pression, c'est plus sympa de la boire que de la subir.
Vous voulez parler de la bière?
Je parle de la bière, bien sûr. Mais je vois des pères de famille qui sont plutôt pris par leur travail, avec beaucoup de pression au travail, parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de sécurité dans le travail qu'on pouvait avoir il y a 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise en se disant qu'on fera toute sa carrière dans cette entreprise. C'est un premier aspect. Il y a un autre aspect, c'est qu'on attend beaucoup plus des pères de famille qui soient investis dans l'éducation des enfants, présents aux enfants, en même temps attentifs, délicats. Moi, je constate qu'il y a une grosse pression et qu'on voit se multiplier les burn-out, on en a parlé il y a quelques temps, les coups de fatigue. Des pères de famille qui se disent « Mais comment est-ce que je vais faire pour gérer tout ce qu'on me demande ?» On me demande d'être sur tous les fronts. Voilà. Ce qui n'est pas forcément facile, et y compris un front spirituel. Ils ont envie de s'engager dans l'église, ils ont envie de... Voilà, mais ils se disent « Mais comment je peux faire ?» Parce qu'en fait, je suis un peu tiraillé de tous côtés. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile en ce moment. Et je le vois chez beaucoup de pères de famille. Ce n'est pas tous, hein. Mais je le vois en tout cas chez beaucoup de pères de famille qui, du coup, ont besoin de se ressourcer, ont besoin de prendre des forces pour avancer dans le monde d'aujourd'hui.
Donc, c'est effectivement ce constat que vous faites des papas sous pression. Comme vous disiez, la pression, elle est meilleure à boire. Pour vous, en fait, être père, qu'est-ce que ça signifie?
Être père, c'est sans doute donner la vie et la faire croître. Donner la vie et la faire croître pour le meilleur. Et c'est vrai que, alors c'est peut-être une définition qui est un peu générale, mais l'enjeu de la paternité est sans doute vis-à-vis de ses enfants, de leur permettre à leur tour d'être père et d'être mère. C'est-à-dire de conduire un enfant à donner ce qu'il y a de meilleur pour lui, à ce que lui-même puisse donner ce qu'il y a de meilleur. Et je crois que c'est un défi qui est absolument magnifique. Le pape François disait dans son exhortation apostolique sur Jean-Paul, sur Saint Joseph, il disait que c'était donner vie aux autres d'être père. Je crois que c'est assez beau, donner la vie, mais aussi donner vie, faire croître. Voilà, ça c'est l'enjeu de la paternité. Alors c'est beau, hein, oui. C'est un bel enjeu. Voilà, ensuite il faut le mettre en pratique, le mettre en musique, et ça c'est sans doute plus exigeant et plus difficile que simplement de le dire comme ça.
Certainement. Comment on devient père?
On ne naît pas père. On devient père sans doute déjà en apprenant à être fils. Je crois que c'est vraiment important pour pouvoir être un bon père de commencer par être d'abord réconcilié avec son père. On a chacun des histoires différentes avec notre propre père. Pour certains, on adule son père qui a absolument tout réussi, qui est un modèle parfait, extraordinaire, et on a le risque de se comparer, de regarder en disant « mais finalement, moi, je suis quand même beaucoup moins bon que mon père, il a fait telle école, moi, j'ai pas réussi. »
Oui, ça peut écraser.
Etc. Ça peut être un modèle un peu écrasant de réussite, ou au contraire, le père a été défaillant, ou en tout cas blessant, dans certaines circonstances de la vie de l'enfant, ou de l'adolescent, ou du jeune adulte que nous avons été. Et on veut surtout ne pas être comme notre père. Et ça, c'est sans doute deux attitudes qui vont nous empêcher d'être véritablement père. Parce que, on est père d'abord en acceptant d'avoir été fils et de prendre du recul par rapport à ce qu'on a reçu. Pour se dire, c'est maintenant moi qui vais choisir l'axe qui vais grandir, qui vais choisir l'axe dans lequel je vais développer et développer ma paternité. Mmh. Je crois aussi qu'être père, ça passe aussi par recevoir de Dieu quelque chose de sa paternité. Saint Paul aux Éphésiens a une très belle phrase, hein, il dit... que la paternité, elle vient du Père. Hein. Je fléchis le genou devant le Père de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. Le Père véritable, c'est Dieu le Père. C'est lui qui nous apprend à être Père. Et je crois la relation avec Dieu, le Père, peut nous aider petit à petit à entrer dans la paternité. On le voit dans la Bible d'ailleurs, Dieu va ne cesser, notamment dans l'Ancien Testament, eh bien, petit à petit d'apprendre aux hommes à être pères. Je pense particulièrement à Abraham, qui est sans doute pour moi un des modèles les plus intéressants de la paternité dans la Bible, parce que justement, il se laisse former par Dieu. Il apprend, il essaye des choses, il essaye de construire sa filiation lui-même, il essaye de reproduire le modèle paternel, etc. Et à chaque fois, Dieu va lui le guider pour le faire grandir dans une paternité véritable qui est un don qui est fait, un don gratuit et qui va faire croître ses enfants, qui va lui permettre de donner une véritable stature de fils à son fils Isaac notamment.
Et est-ce que pour autant être père ne se reçoit que de cette paternité de Dieu ? Est-ce que vous disiez il faut d'abord être fils, se reconnaître comme fils ? Est-ce qu'il y a une autre étape aussi pour être père ?
Étape. Vous êtes attentive, Isabelle, merci. Il y a une autre étape, et je pense qu'il faut aussi se construire, se former, et là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui peuvent aider. Sans doute que ce petit ouvrage, Appears to Be pour Papa Pressé, a aussi cet objectif-là, de nous aider à grandir dans la paternité de manière un peu humaine, en prenant du recul, en travaillant des sujets comme l'autorité, le pardon, la sanction, etc. Le positionnement du père par rapport aux enfants, la question du jeu, j'en parle aussi dans le livre. Je pense que le petit ouvrage que j'ai écrit, mais il y a beaucoup d'autres choses, peuvent être des outils pour nous aider. Puis un autre outil, on en reparlera peut-être un peu plus tard, je pense que c'est la fraternité des pères, qui est, à mon avis, extrêmement importante pour pouvoir apprendre à être père avec d'autres.
Ben si vous voulez, on en parle maintenant. Parce que vous êtes à l'origine des sessions Habemus Papa. Et donc, vous insistez sur cette importance de se retrouver entre pères. Pourquoi ?
Pourquoi ? Ben parce que je l'ai constaté dans mon ministère, je vous raconte la genèse d'Habemus Papa, on a quelques instants. J'avais lancé pour des étudiants une aumônerie étudiante qui s'appelait la bière de l'abbé. Vous savez, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc pour les étudiants c'était bien. Et puis à la sortie de messe, j'ai plusieurs papas, très très bien sur eux, etc., qui me disent « Mais pourquoi mon père, vous faites un truc pour les étudiants ? Pourquoi nous on n'a pas le droit ?» Voilà. Et donc, ils viennent me dire, en fait, on a soif de se retrouver, on a soif de faire quelque chose entre pairs. Alors, la motivation, c'est sans doute la convivialité, mais derrière ça, il y avait aussi un désir, de passer du temps, justement, sans pression. Du temps où les papas peuvent être eux-mêmes, du temps où les papas peuvent se retrouver sans avoir le regard des enfants ou le regard des épouses, un temps, finalement, de vérité.
Et de liberté, alors un peu, quand même.
Et de liberté, oui. Mmh. J'ai eu l'occasion de le voir aussi dans les pèlerinages de pères de famille, où la parole est très libérée, la parole est très libre et très belle et très franche, justement parce que je ne suis pas jugé, parce que je n'ai pas à être un super-héros où tout le monde me regarde, où mon épouse compte sur moi. Voilà, je suis entre pères, P-A-I-R-S,
oui.
et ça m'aide à être père, P-E-R-E.
Alors les hommes sont quand même beaucoup chahutés en ce moment. Il y a évidemment le courant féministe qui a tendance à opposer les hommes aux femmes. Est-ce que pour se défendre contre ce déséquilibre, le machisme serait la bonne réponse ?
Certainement pas. Le machisme, c'est un peu le point commun, je lis dans le petit livre, le point commun entre les jeunes de certains quartiers, de certaines cités, et les jeunes scouts un peu très classiques, etc. C'est un peu un mécanisme de défense où, pour construire ma virilité, j'ai l'impression que ce qu'il faut, eh bien, c'est m'opposer à la femme. Voilà. Et en fait, c'est une très mauvaise conception de la virilité. Sans doute que l'homme, le modèle de l'homme, c'est le Christ. Hein, Saint Paul le dira, qu'il s'agit d'arriver à la plénitude de la stature du Christ.
Et qu'est-ce que ça peut cacher, le machisme, alors ?
Ça cache certainement des blessures, ça cache certainement une peur aussi. Une peur parce que je ne sais pas bien qui je ne suis pas forcément bien dans ce que je suis, et donc j'ai besoin de me rassurer. Avec un groupe c'est souvent le machisme, c'est souvent un phénomène un peu de groupe où je vais faire une blague bien lourde avec d'autres qui vont rire, et donc je me sens aimé, je me sens
une façon d'avoir son petit succès.
Oui, voilà. Mmh. Mais en fait, je pense pas que ce soit. C'est certainement pas une attitude chrétienne. Mmh. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut combattre, je pense. Et il faut être attentif parce que, notamment dans les jeunes générations, ça peut être, dans certaines circonstances, une tentation. Comme dans le monde actuel, eh bien, la frontière entre les hommes et les femmes, père et mère, etc., a tendance un peu à s'effriter ou à disparaître. Certains voudraient réagir peut-être par le machisme, en se disant, voilà, comme ça, je me positionne dans une forme de virilité rassurante. En fait, je ne crois pas que ce soit la bonne approche pour justement être véritablement homme.
Vous employez, Abbé Raphaël Courneau, une très belle expression dans votre ouvrage. Vous dites « avoir son enfant pour ami ».
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je crois que c'est la fine fleur de l'éducation. La fine fleur de l'éducation, c'est d'arriver au moment où il ne s'agit plus de faire croître l'enfant, mais l'enfant devenu adulte, capable de poser des choix par lui-même, capable de décider par lui-même, eh bien, devient d'une certaine manière un alter ego avec qui je peux discuter d'égal à égal. Voilà. Je peux le conseiller dans l'amitié. Je crois qu'il y a quelque chose qui est, quelque chose qui est très beau, qui est très exigeant aussi, qui est très difficile, mais qui peut être un but de l'éducation d'un jeune par des parents. Et donc de se dire, il y a un moment où on arrive dans ce moment où, en fait, l'enfant n'a plus besoin de moi, pas simplement parce qu'il est sécurisé financièrement ou parce qu'il a un époux ou une épouse, etc., mais aussi parce qu'il est vraiment adulte, vraiment capable de décider par lui-même. Et donc, on arrive sur un certain pied d'égalité. Voilà. Même s'il reste une différence, on est toujours le fils de son père ou la fille de son père et de sa mère, etc. Mais il y a quand même... Vous voyez quelque chose de ça. Je crois que c'est le père Gaston Fessard, hein, qui est un jésuite lyonnais, qui disait « La fin de l'autorité, c'est de vouloir sa propre fin. » C'est-à-dire le but de l'exercice de l'autorité, c'est qu'il n'ait plus besoin. Voilà. Et je pense que dans la mission du père de famille, c'est pas mal de garder ça en tête.
Pour terminer, une dernière question, père Raphaël Courneau. Je voudrais vous interroger sur le travail. Et vous dites notamment dans votre ouvrage « Se déconnecter de son travail, c'est une question de foi ». Comment vous pouvez expliquer ça ?
Oui, c'est exigeant. C'est sûr, c'est exigeant de se déconnecter de son travail. Il y a un jour, un père de famille qui me racontait « Vous savez, padré, quand on reste tard le soir au bureau, c'est pas forcément qu'on a beaucoup de travail. Mais aussi, parfois, c'est qu'on fuit un peu la réalité du quotidien, de la maison, avec des jeunes enfants, et que finalement, si on traînasse un peu pour répondre aux mails jusqu'à 8 heures, on va arriver stratégiquement au moment
où les enfants sont couchés,
sera terminée à la maison, et donc ce sera... Voilà, on pourra faire un petit baiser, on pourra faire la prière, et puis on passera à autre chose. Je pense que parfois, dans le travail, il peut y avoir une fuite de la réalité du quotidien et du devoir d'État du père de famille aussi, qui est d'être là. Ça, c'est une première chose. Mais une autre chose, c'est que parfois, dans le travail, dans la course un peu frénétique au travail, on cherche une sécurité financière. On se dit, il faut absolument que j'obtienne le grade suivant, il faut absolument que ceci, absolument. Et si je n'ai pas fait cela, et si je n'ai pas fait... Et il y a un moment où on en vient à oublier que notre vie est dans les mains de Dieu. Que celui qui tient toute chose dans sa main, c'est Dieu.
Donc vous invitez à lâcher prise à faire confiance à Dieu, alors, comme vous dites.
Ouais, faire confiance à Dieu, vivre l'abandon. Mm. Est-ce que je crois vraiment que Dieu est capable de tout et qu'il tient aussi ma vie dans sa main? Et que s'il cesse un seul instant de penser à moi, eh bien moi je n'existe plus. Mais à contrario, Dieu pense à moi à chaque moment et donc ma vie est dans ses mains. Même les épreuves de ma vie, y compris les épreuves du travail, il y a des pères de famille qui en vivent de très douloureuses, eh bien elles sont dans les mains de Dieu. Est-ce que je lui fais confiance ? Voilà, ou est-ce qu'il faut que je construise par moi-même ?
Je signale que de nombreuses initiatives existent dans les diocèses de notre région pour aider les pères à cheminer ensemble. Par exemple, dans le diocèse de Rodez et de Toulouse, il y a des pèlerinages des pères de famille, vous en avez parlé. Il y a aussi des petits groupes qui sont rattachés à des paroisses, qui s'appellent Au nom du Père ou Abemus Papa, dont vous êtes à l'origine. Merci beaucoup, père Raphaël Courneau, de nous avoir accordé cet entretien sur les pères. Et puis peut-être que votre ouvrage, Happy Hours Pie pour Papa Pressé, peut être une idée de cadeau pour les retardataires.